RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Qui frappe et qui marque ! Goal, 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 goal ! Goal ! Luis Enrique qui envoie l'OM en demi-finale de Coupe d'Europe, la Ligue Europa. Le rêve se poursuit pour les Marseillais au terme, Jeannot, d'un match pourri. Oui, et d'un scénario dingue avec des Milos sur la pelouse et un vélodrome qui explose. Marseille est en demi-finale de Ligue Europa.
Bah oui, il fallait saluer comme il se devait dans les grandes gueules la qualification à l'arrache, hein, on doit le dire, grâce au tir au but de Marseille, de l'OM qui a éliminé hier soir Benfica en Ligue Europa, au tir au but donc, et qui rejoint l'Atalanta Bergame en demi-finale. Rendez-vous compte, deux clubs français en demi-finale de Coupe d'Europe, c'est pas tous les jours que ça arrive, donc on a Paris en Ligue des Champions et on a donc en Ligue Europa Marseille. C'était pas gagné, hein, face à Benfica. Beaucoup pensaient que Marseille n'y arriverait pas, craquerait peut-être au Vélodrome. Et au contraire, le Vélodrome a poussé les Marseillais jusqu'au bout pour arracher cette victoire. Bravo Marseille, Frédéric Farah.
Je suis très très heureux et le Vélodrome a bien rempli sa mission, a été évidemment l'homme décisif, si je puis dire, de la partie. Alors que bon, sur le papier, c'était pas donné, puisque même quand on regarde la composition, les effectifs, hein, je veux dire, quand dans Benfica, même si entre El Di Maria est vieillissant, mais ça reste entre El Di Maria, Otamendi, enfin quand même...
Qui a tiré sur le poteau d'ailleurs,
Di Maria. Qui a tiré sur le poteau, et on le remercie pour ça d'ailleurs, donc c'est pour ça que je voulais l'évoquer à cette occasion. Et donc c'est formidable. C'est rare qu'il y ait des bonnes nouvelles dans le foot français.
Dans la même semaine, on a quand même deux belles nouvelles, et puis c'est les deux plus grands clubs français.
Exactement.
Qui se qualifient, donc il y a une logique en plus.
Il y a une logique, et j'ai envie de croire qu'on peut avoir encore de meilleures nouvelles dans les semaines à venir, ou peut-être qu'on a deux vainqueurs français.
Eh oui, ça serait génial.
Ah mais ce serait génial, mais c'est pas fou d'y penser, hein, c'est pas de
délire. Et alors on peut aller même encore plus loin, parce que derrière il y a l'Euro,
oui,
et l'équipe de France pourrait aussi remporter l'Euro.
Ah mais là ce serait...
Et derrière les JO.
Oh là 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 là.
Alors là, mais tu t'imagines...
La France est de retour, Antoine Dierz. Et ça, on aime.
Mais voilà, oui. Exactement.
Bonjour, c'est Antoine.
De retour. Bonjour, Olivier. Non, moi, je suis pas très foot, pas très Marseille, mais je pense à tous mes amis marseillais, notamment un vieil ami Thibaut que j'imagine exulter avec cette victoire.
Ah, mais l'ambiance hier à Marseille. Zora Bittan, bonjour, Zora.
Non, mais moi, je vous écoute et je savoure votre passion du foot.
Dans l'actualité, quand même, relativement morose,
eh ben
il faut
oui,
trouver des occasions de se réjouir.
Ouais, moi, ça me fait ni chaud ni froid, mais...
Mais c'est génial.
Pas foot, donc.
Non, mais c'est des moments, mais moi je trouve ça extraordinaire.
Les plus belles émotions, c'est le sport.
Mais bien sûr.
Moi j'aimerais bien.
Devant ta télé ou au stade, comme quand t'étais comme un fou.
Moi j'aimerais bien qu'on gagne la bataille de l'autorité.
Comment t'as ramené le sujet?
Par exemple.
Et je reviens dans l'actualité.
Non, mais parce que ça va 5 minutes le foot. Voilà. Hein, parce que là, si je les laisse, ils viennent jusqu'à midi.
Bon, en tout cas, bravo, chapeau à l'OM, ouais, chapeau au Paris Saint-Germain. Et on a hâte de voir ces demi-finales.
Bon, bravo quand même. Hein.
Bien sûr, c'est sur RMC que ça se joue. Hein. Hier soir, il y avait une ambiance de folie sur RMC avec l'after dans la foulée. Bon, tu parles de sursaut d'autorité. Effectivement, Gabriel Attal, le jeune Premier ministre, face à la violence des jeunes. On a vu hein, tous ces faits divers effrayants qui mettent en cause des mineurs. Hein, et on pense notamment à Philippe, ce jeune homme de 22 ans qui a été littéralement massacré par deux mineurs de 14 et 15 ans. Mmh. On pense à ces jeunes qui se font
dont
tabasser.
Dont un des jeunes dit ne pas regretter, d'ailleurs.
Ouais. On pense à ces jeunes qui se font tabasser devant leur école par d'autres jeunes. Face à ces violences, Gabriel Attal souhaite un sursaut d'autorité. Est-ce qu'on y croit ?
RMC, les grandes gueules.
Ta présentation.
Nous avons besoin d'un vrai sursaut d'autorité. Ce sursaut d'autorité, c'est une réponse à l'incompréhension, la sidération. Oui, la sidération de nos concitoyens. Nous lutterons contre l'oisiveté par tous les moyens. Cela passera enfin par des mesures simples, concrètes, de bon sens. Se lever dès qu'un professeur rentre dans la classe. Faire participer l'ensemble des élèves, dès le plus jeune âge, aux tâches communes au sein de leur établissement scolaire. C'est cela, pour moi, instaurer une véritable culture du civisme et de la responsabilité partagée à l'école, partout et tout le temps.
Alors, le Premier ministre a lancé en fait une concertation qui va aller assez vite. Il a mis sur la table comme ça des pistes de réflexion, on a entendu quelques-unes, pour lutter contre l'oisiveté des élèves, dit-il. Les enfants seront accueillis à l'école toute la journée en continu, les collégiens de 8h à 18h. Il veut un contrat de droits et d'obligations entre les écoles et les familles d'élèves. Les élèves perturbateurs auront une mention fauteur de troubles dans leur dossier scolaire et notamment dans leur dossier Parcoursup.
Gravement, oui.
Parmi les pistes évoquées, l'internat, parce que visiblement, il y a des
50 000 places.
Il y a des dizaines de milliers de places non pourvues. Les travaux d'intérêt général pour des parents délinquants, des amendes pour les parents qui ne répondent pas aux convocations du juge pour enfants, la piste d'une comparution immédiate dès l'âge de 16 ans au lieu de 18 ans, et puis l'excuse de minorité qui pourrait sauter, mais ça, on en parlera tout à l'heure dans une dernière partie dans les grandes gueules. Mais d'une manière générale, est-ce que vous pensez que Gabriel Attal a pris la mesure des événements et est capable de redresser et de répondre à ce qu'il veut, c'est-à-dire ce sursaut d'autorité, Antoine Diaz.
Ils sont au pouvoir depuis 7 ans, depuis 2017, Attal et tous les macronistes, et là ils décident que, attention, on va faire un sursaut d'autorité. Le truc est tellement faible, tellement en décalage avec la réalité. On va faire se lever les élèves quand un professeur entre dans la pièce. Mais attendez, on n'en est plus à ce niveau-là. Ça fait 40 ans qu'on n'est plus à ce niveau-là. Aujourd'hui, on a des mineurs qui sont des bêtes dangereuses, des bêtes féroces. À côté de chez moi, à Grande-Synthe, un homme s'est fait littéralement massacrer par deux mineurs. Et c'est pas en les faisant se lever dans la classe quand un prof rentre qu'on va régler quoi que ce soit. Le sursaut d'autorité, c'est déjà trop tard. Moi, je pense que aujourd'hui, on doit préserver la société de ces mineurs qui sont des bêtes féroces. On doit, le gouvernement, nos responsables politiques ont une responsabilité vis-à-vis des citoyens qui leur ont confié leur sécurité, c'est de mettre hors d'état de nuire ces mineurs, même s'ils sont mineurs, qui sont un danger et qui tuent des gens. Et donc moi, je pense qu'on n'est plus du tout sur le sujet du sursaut d'autorité, on est sur le sujet de comment on met hors d'état de nuire ces bêtes féroces.
Oui, mais avant de devenir des délinquants, voire des criminels, peut-être qu'il y a des choses à faire, et notamment instaurer cette autorité pour éviter que ces jeunes dérivent.
Alors, moi, j'ai bien écouté les deux interventions de M. Attal.
À Viry-Châtillon et puis hier soir sur BFM.
Voilà, j'ai tout écouté parce que d'abord, ce sont des sujets qui m'intéressent et sur lesquels je travaille beaucoup. Alors, la première chose, c'est qu'on ne peut pas enlever au Premier ministre que pour la première fois, il y a un diagnostic honnête et réel. C'est-à-dire qu'il n'a pas nié le réel, contrairement à certains qui, depuis des années, et d'ailleurs, on en est un peu là à cause de ceux qui ont précédé le quinquennat le premier quinquennat de Macron, qui, eux, ont toujours été dans le déni et la complaisance. On ne peut pas dire qu'un Premier ministre a eu le discours le diagnostic de Gabriel Attal. Donc ça, c'est une première pierre à l'édifice qui est, à mon sens, très importante parce que ça signe quand même une volonté et en tout cas c'est-à-dire tous les acteurs locaux de l'éducation ont, de la part du gouvernement, une orientation et une feuille de route où il y a une volonté d'aller dans ce sens. Ça, c'est très important, parce qu'on dit toujours que lorsque les hommes politiques sont laxistes, sans que ce soit des lois, ça infuse le laxisme partout. Donc quand il faut... Attends, je termine. Une fois que le diagnostic est posé, le sursaut d'autorité, il vise à la fois le civisme, qui à mon sens touche la totalité des élèves, parce que le harcèlement, les faits de violence, les insultes, etc., c'est aussi des choses sur lesquelles il faut de la prévention et de l'ordre. Donc quand il parle de sursaut d'autorité, il parle de la globalité, de l'ensemble des enfants et des élèves en termes de civisme, de civilité, de savoir-être et de rapport à l'autorité. Et ça, c'est important de le réinstaurer. Et je pense que ça ne mérite pas des mesures spectaculaires de police, de justice, etc. C'est à chaque acteur de l'éducation.
Il faut que tout le monde dans l'éducation nationale joue le jeu. Si des profs, ne font pas respecter simplement le fait de se lever...
Oui, d'accord. Donc là, en quoi le gouvernement serait responsable?
L'éducation nationale sous la responsabilité du gouvernement.
D'accord, mais s'il y a des profs qui décident... Oui, mais lorsqu'il y a des profs qui ne font pas preuve d'autorité au sens basique du terme, l'éducation nationale, bien sûr qu'elle doit sanctionner, mais tu vas pas aller derrière chaque enseignant. Non mais tu vas pas aller derrière chaque enseignant. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que il y a quand même des mesures immédiates. La partie justice, elle est en train d'évoluer. On peut pas par un coup de baguette magique avoir une politique d'éducation, de prévention et de sanction comme ça qui sortirait du chapeau. On crierait à la démagogie. Ça va monter crescendo. Je pense qu'à partir du moment les choses sont nommées, ça veut dire qu'on est d'abord sur un bon diagnostic. Quand un médecin fait un diagnostic et qu'il est bon, on est plutôt, j'allais dire, optimiste sur le traitement qui va être adapté. Lorsque l'on dit rien, c'est pire. Moi, je salue cette première où il y a un ministre qui nomme les choses.
Frédéric Farah, est-ce que tu as été convaincu par la détermination de Gabriel Attal qui veut un sursaut d'autorité ?
Bon, le jeune padawan Gabriel Attal ne m'a pas convaincu du tout. Pourquoi jeune padawan ? Parce qu'effectivement, dans ces éléments de langage que lui ont donné ses communicants, puisqu'il répète la même chose, je répète qu'il y avait un discours à peu près à la phrase près de Nicolas Sarkozy en 2007 sur le sujet. Donc un discours qui est quand même assez ancien. Il nous dit « la République contre-attaque ». Alors l'Empire contre-attaque, hein, c'est un moment important dans l'histoire du cinéma. On le sait, c'est évidemment la guerre des étoiles auquel on peut faire référence. Au-delà de ces éléments, pourquoi il ne m'a pas convaincu ? Pour plusieurs raisons. Parce que je me demande à qui s'adressait ce discours. Est-ce que ce discours s'adressait finalement à l'électorat au moment où les européennes ne donnent pas des bons signes pour Renaissance ? Puisque, évidemment, les sondages ne sont pas bons. Et pour dire, attention, le gouvernement, en matière d'autorité, on est là, croyez-nous, on peut nous faire confiance. Parce qu'en fait, je ne sais pas si finalement le discours, ce n'était pas à Mme Hayer qu'il avait dans sa tête.
Donc c'est peut-être aussi un discours électoral.
Un discours électoral et politique. Donc c'est-à-dire, il fallait sauver la soldate
Hayer. On n'est pas à l'abri, effectivement, d'un petit calcul politique.
Les éléments de langage, on les connaît par cœur. Alors comme effectivement le gouvernement est en phase d'austérité et on va réduire les moyens et l'éducation évidemment va passer aussi de ce côté-là, donc il faut proposer des mesures qui ne coûtent rien. Alors je rappelle quand même pour les internats, je ne dis pas qu'il n'y a pas de place, je suis allé vérifier taux d'occupation 79,1% des internats, donc il y a un peu de marge mais il n'y en a pas. Tant que ça. Il n'évoque pas quand même des questions importantes. 122 000 jeunes par an sortent du système scolaire sans aucune formation. Ouais. C'est un vrai souci.
Il y a un système qui s'appelle les décrocheurs scolaires au sein des établissements et il y a du monde autour.
Voilà. Mais donc, je pense que c'est beaucoup de bruit pour rien. Et puis, il y a toujours la méthode Attal en disant bon, on va faire 4 semaines, 8 semaines, vous allez me donner des propositions, ensuite on verra. En gros, on fait beaucoup de bruit pour rien, pour essayer d'exister dans la sphère médiatique, mais il ne se passera rien.
Donc tu n'y crois pas du tout, toi.
Je n'y crois pas. Et en plus, on va mettre la charge sur les profs à qui on va demander, depuis des années, il faut fabriquer de bons citoyens, il faut les préparer pour la vie du travail.
Il faut remplacer les parents,
parfois. Il faut remplacer les parents, il faut les rendre sensibles à la question écologique, il faut les rendre sensibles à MeToo.
Non, c'est faux.
C'est en fait, tout ça est
insuffisant. Mais c'est faux, parce que je vais t'expliquer la vie dans un collège.
Oui, mais lorsqu'un j'enseigne depuis 20 ans.
Voilà, non mais un collège, chez des 11 ans, quand un principal, je vais t'expliquer, dans un collège, quand un principal applique des règles de fermeté, je te dirai ni le nom du collège et ni pourquoi cette expérience, je la connais par cœur. Parce que voilà, c'est personnel et c'est actuel aujourd'hui. Quand le principal, dans un quartier prioritaire, est sévère et qu'il applique les règles et qu'il a de la fermeté, 0,0 débordement. Il se passe rien, tout est nickel.
Alors pas besoin de faire des consultations.
Non mais ça veut dire que ça veut dire ça veut dire que cette idée de l'ordre, du civisme, du savoir-être et de la fermeté, les enseignants doivent l'appliquer. Et donc le Premier ministre.
Il y en a beaucoup qui sont dépassés quand même, Zora. Il y en a beaucoup qui, malgré leur engagement
professionnel, c'est la police.
Sûr, font face à des
je
gens.
Je rappelle quand même que le proviseur qui avait demandé à ces jeunes filles de retirer son voile, c'est lui qui était obligé de démissionner parce qu'il est menacé.
Mais bien sûr.
Mais donc là, vraiment, je pense qu'on a dit beaucoup de choses. On n'est toujours pas passé à la mesure. On n'a toujours pas pris la mesure et passé.
Oui, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire ?
Je pense vraiment qu'on doit aller sur des choses qui visent à sortir le mineur.
C'est la prison, tu mets à Fleury ?
En prison. Les mineurs, je t'ai dit, les mineurs tueurs, les bêtes féroces qui vont tuer
mais
des gens.
Mais ça, en fait, tu gères les conséquences.
Laissez-moi finir. Travailler en amont.
Dis-moi, ceux qui ont tué Philippe, ils vont aller en prison. Mais bon, Philippe, il est mort.
Vous nous dites, éducation, ils vont se lever.
Non, mais on est pour la sanction, on n'est pas contre.
Je termine. Moi, je pense que ces jeunes-là auraient dû être pris depuis bien longtemps dans des trucs de redressement, dans des internats gérés par l'armée, etc. Et qu'en fait, il y a des jeunes qu'on doit redresser de manière urgente et de manière très dure.
Comment
sans
tu les détectes ?
On laisse. Mais tu sais très bien de qui on parle. On les voit. Tous ces jeunes.
Oui, mais on les voit comment, on les détecte comment ?
Dans les structures. Vous les voyez bien.
Les moyens de se retourner. Il n'y a pas de structure.
Je termine, Zora. Moi, je vois tous ces jeunes qui sont racaillisés. C'est-à-dire qu'ils ont.
Oui, comme on a vu à la fin du trône.
Et ils se prennent pour des caïds. Mais c'est-à-dire que ce bonhomme-là, tu le vois, tu le prends, tu lui mets deux tartes, le mets dans un truc éducatif. Oui. Mais attendez, c'est pour leur bien. Et c'est notre faiblesse, c'est nos mots. Oui, la République fera se lever pour les enseignants qui font que ces jeunes-là, on les sauve jamais.
Alors, on continue d'en parler avec vous au 32-16. Est-ce que vous croyez au sursaut d'autorité souhaité par Gabriel Attal ? On reviendra également sur sa phrase concernant l'entrisme islamiste dans les écoles. Il a dit ça hier sur BFM TV. A tout de suite sur RMC, RMC Story.
RMC, 9h30, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
La suite des grandes gueules sur RMC, RMC Story avec Zora Bitant ce matin, Antoine Diers et Frédéric Farah. On est sur le sursaut d'autorité souhaité par Gabriel Attal qui a mis sur la place publique plusieurs pistes de réflexion parce qu'il y a concertation pendant 8 semaines pour essayer de maîtriser cette jeunesse, une certaine partie de la jeunesse en pleine dérive. On a parlé d'une jeunesse orange mécanique. On est avec Agnès au 32-16. Bonjour Agnès.
Oui, bonjour.
Vous vous appelez de Gironde. Est-ce que vous y croyez, vous ? Est-ce que vous avez entendu les mesures ? Est-ce que vous avez été convaincu ?
Alors, les mesures, je les ai lues, je ne les ai pas entendues directement, je les ai lues, j'en ai pris connaissance, mais à mon sens, il était temps, même si j'y crois peu. Mais j'insiste sur le fait qu'il était temps parce que je suis une maman seule qui, en ce moment, traverse une période difficile avec son adolescent.
Il a quel âge ?
16 ans bientôt.
16 ans, oui.
Voilà, mais ce n'est pas au stade de ce que je vois à la télé, mais bon, ça commence toujours par très peu.
Qu'est-ce qu'il fait ?
Qu'est-ce qu'il fait ? Ça va faire quelques années que ça dure déjà, hein, parce que c'est depuis la classe de 3e quand même. Il est en seconde, là. Ouais. C'est depuis la classe de 3e qu'il se sent grand, déjà par la taille, comme pour beaucoup de jeunes. Mmh. Et que les professeurs ont du mal à le gérer. C'est pas quelqu'un de violent, mais qui va avoir peut-être le mot pas à sa place. Pourtant, c'est très loin, mais à milieu de l'éducation qu'il a reçue.
Mmh. Dites-moi, Agnès, j'ai une question à vous poser.
Oui, je vous en prie, madame.
Est-ce que vous trouvez de l'aide autour de vous pour justement gérer, alors vous l'éduquez correctement, j'en doute absolument pas, vous suivez bien votre enfant, pourtant vous êtes une maman seule, donc ça veut dire que la monoparentalité n'est pas une justification au débordement des jeunes et à leur violence. Donc vous faites ce qu'il faut et pourtant votre jeune vous échappe et que en fait vous êtes près de lui et vous redoutez des choses... beaucoup plus grave. Est-ce que vous êtes aidé ? Comment réagit l'établissement scolaire ? Est-ce que vous trouvez des structures ou des gens pour vous venir en aide sur cette difficulté dans l'éducation de votre adolescent ?
Alors, je vais brosser rapidement le tableau. Alors, dès la 3e déjà, croyez-moi si vous voulez, je vais vous faire une confidence, ce qui n'est plus une confidence. J'ai eu un enseignant, et lui, je l'ai plaint parce que je l'ai un peu trop compris, qui devait certainement être très jeune, un prof de maths, qui m'a écrit vers la fin d'année, c'est-à-dire à 2 semaines de la fin de l'année scolaire de 3e, pour me dire « Madame, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez maintenir votre fils à la maison ?» Et il m'a donné la raison que je devais évoquer pour le garder à la maison, parce que lui n'arrivait plus à avoir le dessus sur lui, c'est-à-dire le dessus qu'il faut en tant qu'enseignant. Mais je ne l'ai pas mal pris. Audacieux, mais je ne l'ai pas mal pris. J'ai plutôt vu quelqu'un en souffrance.
Oui, mais enfin bon,
Normal.
Non plus. Antoine, ça te fait réagir.
Mais oui, en fait, comment on en arrive là ? C'est-à-dire que votre fils a 16 ans, moi à 16 ans.
Il a 16 ans aujourd'hui, je... à cette époque, il n'avait pas 16 ans.
Bah voilà, il avait quel âge à l'époque?
Moi, attends, je
Il est en seconde, il reprend la seconde là. Donc,
moi,
il avait 15
ans. 15 ans.
Moi, je me serais comporté comme ça. Mes parents, on aurait été chercher un grand cousin, un oncle, qui serait venu me voir et qui aurait dit, mais tu fais quoi là? Tu sais que tu vas gâcher ta vie. Et
donc, super.
Mais vous n'avez pas réussi.
Je suis totalement d'accord. Je suis d'origine africaine. Je suis française d'origine africaine. J'ai la chance de jouir justement de ces deux cultures, c'est-à-dire celle de mes origines et celle de ma terre d'accueil. Mm-hmm. Et l'épée de Damoclès qu'en tant que parent on a sur la tête, c'est justement qu'on ne peut pas aller l'affaisser, ne résout pas tous les problèmes. Mais vous savez qu'en tant que parent, on marche avec une épée de Damoclès sur la tête. Je vous prends un exemple. Quand mon fils, par exemple, le 1er juin de l'année dernière, a traîné dehors jusqu'à 2 heures du matin, j'ai appelé la police parce que j'étais inquiète. Mm-hmm. Je leur ai expliqué. Ils m'ont dit, les tramways finissent à je ne sais pas quelle heure et vous pouvez encore avoir de ces nouvelles d'ici là. Ok. Moi, j'ai alerté, il était déjà 23 heures quelque chose. Après ça, il n'est pas rentré. De suite, mais j'ai eu une alerte, comme j'avais alerté quelques personnes, on m'a dit, une dame a fini par me dire, une maman de son copain a fini par me dire, il vient d'arriver chez moi. Ok, j'étais rassurée. Mais au niveau du système scolaire, quand on donne quand on vous appelle tous les jours, moi je sors à 6h35 de chez moi pour aller bosser. Je suis aide-soignante. Donc, mon fils va à l'école à 8h. Quand je pars, je le lève, je prépare tout. Petit déjeuner, je pose à table, ok? Mais lui, après moi, il est en retard en cours. On m'appelle pour me dire régulièrement. Mais en tant que parent, je fais comment?
Agnès, je comprends très bien et ce que vous racontez, je pense que beaucoup le vivent. Mais Agnès, où est si je me permets une question peut-être un peu indiscrète, mais où est le père?
Le père, comme par hasard, le père est dans la ville. Mais j'en arrive à me demander si on peut transmettre ce qu'on n'a pas reçu. On est séparés. J'essaye en tant que maman de maintenir.
Mais est-ce que le père essaye quand même d'exercer une certaine autorité sur son fils?
Je sais que j'autorise. Alors, je ne m'incruste pas dans leur relation parce que je suis enfant. Qui n'a pas été reconnu par son père, je veille à ce que leur relation existe.
D'accord, mais parce que
les
grands gaillards de 16 ans, et nous avons été nous aussi des gaillards de 16 ans un peu dissipés parfois, c'est sûr que quand il y a le papa et la maman, c'est souvent plus facile. Le père, quand même, est là aussi un peu pour cadrer le garçon, pour fixer des règles. Je dis que la mère peut le faire aussi. Mais quand on est seul, c'est plus compliqué parce qu'effectivement, vous dites, vous devez travailler, vous n'êtes pas là le matin et vous faites tout possible. On voit bien que la situation est... Mais moi, je pense quand même que, bien sûr que les familles... Il y a beaucoup de familles monoponentales qui sont formidables. Néanmoins, prenez la diversité des familles. C'est très bien, les familles diverses, on peut avoir des enfants seuls, etc. On voit quand même que...
Bien sûr, ça, c'est limite.
On voit que ça, c'est limite.
Les
mêmes qui prônent ça se sont un peu surpris de voir les conséquences.
Bien sûr. Mais moi, je voudrais rajouter le gouvernement, justement, dans le cas de la dame.
Agnès.
Si je puis me permettre, je suis maman de deux enfants. Hein. Oui. J'ai son aîné qui a 18 ans et qui est en deuxième année d'université. Tout se passe bien.
Oui, mais les filles, c'est souvent plus facile.
Et le petit. Et voilà, il est dans une phase où ce n'est que l'extérieur qui compte, c'est les qui compte, l'autorité.
Mais justement, Agnès, vous dites, c'est intéressant parce que c'est là où le gouvernement... Alors voilà, on a un cas là aujourd'hui de cette dame qui fait vraiment tout ce qu'elle peut pour éduquer ses enfants correctement. Et c'est là où le gouvernement a un rôle important, c'est tout ce qui est justement périscolaire. Où sont les éducateurs spécialisés qui pourrait venir en lien aider
pour éviter la bascule, on va manquer de moyens parce qu'effectivement
c'est pour éviter la bascule, l'instruction
l'éducation c'est les familles,
je te parle éducateur spécialisé après l'école comment tu aides ces familles,
les
équipes d'éducateurs,
l'État ne peut pas éduquer les jeunes.
Donc tu passes d'un môme Non, mais on passe d'un jeune qui est indiscipliné et qui ne fait pas de bêtises. On dit qu'on va attendre qu'il fasse 1 million de bêtises ou la pire pour intervenir. Moi, ce que je dis, c'est que...
C'est que c'est le rôle de la famille d'intervenir.
Oui, non, mais quand la famille, elle est dans ce cadre que justement décrit Olivier...
Justement, posons la question à Agnès.
Mais oui.
Qu'est-ce que vous attendez,
est-ce que
en
vous,
fait
est-ce que vous accepteriez d'être aidé?
Non, mais le problème, tu vois, Zora, Agnès... Quand elle reçoit le message du prof qui dit écoutez, j'arrive pas, donc reprenez votre môme, tu vois, elle est pas aidée. Parce que tu dis, il faut que l'État aide. Bah là, l'État,
mais
c'est
oui,
le prof.
Mais oui, mais Antoine dit, c'est pas à l'école de le faire.
Non, Zora. Zora, pardon, on inverse pas les choses.
Il dit, c'est l'instruction.
Non, le prof lui-même n'y arrive pas.
Mais bien sûr.
Donc, c'est pas son métier. C'est d'instruire.
Moi, j'ai connu les époques des centres sociaux, des MJC, de la Ligue de l'Enseignement, de toute l'éducation populaire qui avait un rôle extrêmement important.
Tout ça a disparu.
Mais oui, mais c'est ça qui aidait.
Non, mais tout ça a disparu.
Il y avait l'armée après.
Plein d'instances de socialisation qui ne fonctionnent plus. L'État, de toutes les façons, par des politiques de rabot diverses et variées, réduit les moyens. Et les profs sont débordés. Alors, où je ne suis pas... C'est vrai, dans l'idéal, on aimerait que les profs soient jusque dans la transmission de savoir. On sait bien aujourd'hui que ce rôle est allé en extension et que les profs n'y arrivent plus non plus. Et donc, et on demande à l'école d'assumer de plus en plus de tâches, elle n'arrive plus à le faire. Oui, et à la fin, on ne sait plus ce qu'elle doit faire prioritairement.
Ah, yes.
S'il vous plaît, je vais spécifier mon cas. Par exemple, je vous dis, mon fils a bientôt 16 ans. Mais tous les soirs, depuis presque 2 ans, je prends le téléphone tous les soirs et je lui remets le matin.
D'accord.
Que ça c'est bien, c'est courageux. C'est comme ça. Parce qu'il y passe. Et dès que je pars, si je travaille, dès que je pars, je peux vous rassurer qu'il est dessus du matin jusqu'au soir.
Est-ce qu'une place dans un internat pourrait être une solution?
Alors, moi, j'ai une nièce qui va à l'internat, hein, s'il vous plaît. Moi, je ne crois pas que l'internat soit l'internat qu'on a connu autrefois.
Non, c'est pas la même chose.
Il y a quand même un certain laxisme à l'internat.
Ah, vous trouvez?
Ah, bah voilà. Agnès, elle veut des internats, des vrais internats où il y a de l'éducation.
Mais c'est l'État, ça aussi.
Autrefois, moi-même au Cameroun. Oui. Okay. L'internat, c'était l'internat. Quand on y allait, on savait que c'était... Voilà. Il y avait
de la discipline.
Mais c'était l'internat. Voilà. Et ce que vous appelez
mais Agnès, s'il y avait aujourd'hui des internats avec de la discipline, de l'apprentissage, de la rigueur, etc., est-ce que vous accepteriez que votre fils...
Mais bien sûr.
Là,
et
voilà.
En plus, si je me mentais à l'expérience de ma fille, pour avoir fait le service civique, le service
SNU.
Civique universel, ma fille est une fille, mais elle est, franchement, ça lui a apporté un plus.
Mais
elle
oui.
est riche de cette formation-là. Ça n'apportera pas peut-être à tous les enfants, mais je voudrais que ce soit, j'aimerais que ce soit un passage obligatoire, qu'ils apprennent la discipline autrement. Mon fils, je lui en ai parlé, il ne veut pas, et je ne peux pas, je n'arrive pas à le contraindre à y aller.
C'est pour ça qu'il faut le rendre obligatoire.
Voilà.
Oui, mais rendre obligatoire, c'est des moyens. C'est-à-dire, c'est des moyens et conséquents. Et donc, que l'État ne va pas vouloir engager. Et c'est ça que.
Oui, en fait, mais on c'est... a laissé faire, si on a laissé faire. Vous savez, avec tous ces gadgets aujourd'hui, les cerveaux de nos enfants sont occupés à 70% dans la bêtise.
Mmh. Oui,
moi,
il y a
quand
vrai
j'étais
aussi.
Petite, je
faisais. Ah, mais là, c'est une
jouets,
maman qui appelle au secours. Elle demande des internats, de l'autorité, de la rigueur, de la discipline et de l'ordre.
Mais il faut autre chose que la Macronie, alors.
Il joue au football, ça, c'est bien.
Même au football. Malgré l'éducation qu'il a reçue, il a été capable de dire à la vitre fils de pute. Ça veut dire qu'il y a une éducation de la maison et il y a l'éducation de dehors.
Alors que la mère n'y est pour rien.
Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse?
Peut-être que l'internat, c'est une solution. Vous sortez le...
Voilà, non, mais moi, je peux vous dire qu'en contact avec des jeunes dans des EHPAD, les jeunes eux-mêmes...
C'est quoi
les EHPAD, c'est des internats où les jeunes viennent volontairement à partir de l'âge de 16 ans. Ils ont une partie levée de drapeau, marche militaire, etc. Et une partie insertion professionnelle.
Comment on y va dans ces épides,
ils sont volontaires, tu fais une démarche.
En fait, tu as tout dit, Lazare.
Attends, je termine.
Il existe des choses, mais pour les volontaires.
Non, mais c'est important. Oui. Les équipes encadrantes sont hyper professionnelles. Les jeunes y sont de manière volontaire. Et tous les jeunes vous disent qu'ils ont. Tous les jeunes vous disent que cette rigueur leur fait du bien et que s'ils avaient eu cette rigueur plus tôt, ils n'auraient pas fait des
bêtises. Comment s'appelle votre fils, Agnès?
Je ne vais pas le vendre.
Non, est-ce que vous habitez où? Est-ce que vous pouvez regarder?
Je donne son nom.
Non, mais pardon, alors je ne sais pas ce que je voulais pas savoir, mais je voulais savoir, est-ce que si votre fils, vous lui proposez l'EHPAD, est-ce que ça pourrait l'intéresser?
Je vous ai dit qu'on est face à quelqu'un qui est réfractaire à tout.
Ah oui.
Voilà.
Donc ça, c'est le problème du volontariat, Zora. C'est-à-dire que...
En tous les cas, ce qui est rassurant, c'est qu'il y a plein de jeunes qui réalisent par eux-mêmes, qui, en souffrance, ils ont besoin d'une structure cadrée et encadrée. Et ça, c'est bien.
Je veux vous prendre un dernier exemple, s'il vous plaît.
Oui.
Le fait qu'il ait traîné la nuit quelquefois et que je ne savais pas où il allait, j'ai décidé de prendre son téléphone et je lui ai dit, je vais amener ce téléphone à la police pour qu'on le trace et qu'on me dise où tu vas souvent.
Mmh.
Ok. Ici... Si j'amène à la police me dit que ce n'est pas de son ressort.
Ben
mais
oui.
Si j'étais en Afrique, croyez-moi, j'amène à la police le ferait. Et elle l'appellerait même pour l'intimider, un peu.
Mais oui.
Mmh. Okay. Mmh. Parce qu'à un moment, ils ont besoin aussi de... Il faut
leur faire peur un peu, quoi.
Mais oui.
Oui, il faut leur faire peur.
Oui, ils sont en toute puissance.
Et si vous vous trouvez désarmés, désemparés, la rentrée va arriver là, j'ai peur. Ça va recommencer. Qu'est-ce qu'on fait ? On va attendre 16 ans pour qu'il ait le droit d'être exclu du système scolaire ?
Eh
oui.
Oui, mais si je dis, le risque, c'est 122 000 jeunes.
Il n'est pas fumeur, il n'est pas buveur.
Oui, oui, oui. Il a simplement un problème avec l'autorité, mais il n'est pas non plus irrattrapable. C'est-à-dire que Agnès, le problème, c'est que vous avez peur qu'il bascule dans autre chose.
Voilà. Et c'est là où on intervient normalement avec des moyens humains.
Mais qui manque. Il a reçu une belle éducation. Ouais. Et qu'après cette période,
mais alors, là, si dire on arrive les moyens, à
la traverser, le meilleur de lui
ressurgira. Mais avant ça, il faut faire quelque chose.
Mais alors, merci, merci Agnès. On va remercier Agnès parce que.
Merci beaucoup Agnès.
Merci d'avoir été avec nous.
C'est bon courage. Jour, parce que vous faites.
Et allez voir les épides. Franchement, allez quand même aller voir.
Si lui veut ce pas, que c'est.
Non, mais elle peut proposer, visiter, voir un peu ce que c'est. On sait jamais.
Je me le note. Merci.
D'accord. Merci.
Merci Agnès. En tout cas, Agnès, on a quelqu'un qui sait trouver des solutions et qui quand même, pardon, mais.
Elle fait ce qu'elle peut.
À ce prof qui dit reprenez votre fille, j'arrive pas à gérer. Moi, je suis désolé, j'ai connu moi. Alors, tous les profs n'étaient pas, n'avaient pas la capacité de tenir sa, la classe. Je pense qu'il faut avoir un simple.
Ah bah, bien sûr.
C'est un peu naturel, hein, l'autorité.
Bah, ouais.
Voilà. Mais quand même, est-ce qu'il n'y a pas aussi un défaut aujourd'hui? On sait qu'on a du mal à recruter des profs. Il y a beaucoup d'enseignants qui font pas ça forcément par vocation.
Oui, bien sûr,
est-ce qu'à l'école, il manque pas un peu ça? Nous, on a quand même. Moi, je suis une génération, on avait des profs, ça ne mouftait pas. Et le type n'avait pas besoin de gueuler. Hein.
Mais
parce qu'il y avait une autorité naturelle, il dégageait quelque chose.
On était éduqué à l'autorité aussi.
Oui, mais
pardon, ce n'était pas une autorité naturelle. C'était une autorité du système, c'était une autorité systémique.
Oui, mais lui eux-mêmes, sans eux.
Attendez, bien sûr, il y a quelques profs
très
bons.
Mais dans la population, c'était comme ça.
Attends, je termine. Le prof, même pas très bon, était protégé par le système. C'est-à-dire que le prof qui tenait pas très bien sa classe, ben les jeunes, les élèves n'auraient jamais osé, à une époque, aller aussi loin qu'ils vont aujourd'hui, parce qu'ils savaient que le système défendrait son représentant, la personne du professeur. Aujourd'hui, il n'y a plus de sanctions, il n'y a plus de conséquences.
Oui, mais
donc les agents...
Non, mais moi, je crois qu'il y a une crise des vocations, et c'est vrai que ce qui arrive dans ce métier le font un peu... par défaut, parce que c'est un métier qui n'attire plus. Et il y a une crise de tous les métiers à vocation. Médecin généraliste, prof, c'est vraiment quelque chose qui est net dans notre société. Et ce métier, il est à bout de souffle. Il est à bout de souffle.
Allez, résultat de la consultation. Attal veut un sursaut d'autorité. Est-ce que vous y croyez? On vous questionnait sur le compte X des Grandes Gueules et vous dites non. Oh là là, c'est sévère. Non à 86,9%. Les gens ne sont pas convaincus. Il faudra des actes, pas seulement des discours.
Je pense que c'est lucide.
Ça. Les Français, ils en ont marre des éléments de langage. Ils veulent des actes, ils veulent du concret.
On verra si
c'est du concret dans 8 semaines après la concertation. Dans un instant, on s'en fout pas.
RMC,
9h midi,
les Grandes Gueules,
Alain Marchal, Olivier Truchot.
La suite des Grandes Gueules sur RMC, RMC Story avec Zora Bitant, la fonctionnaire Antoine Dier, ce consultant, Frédéric Farah, le prof d'éco. On s'en fout pas.
RMC, les Grandes Gueules.
On s'en fout.
Je peux pas te dire à quel point je m'en fous.
Pardonnez-moi, mais je m'en fous.
Ou on s'en fout pas.
Je peux vous dire qu'Anaïs Sens, bonjour.
Bonjour.
Elle a le boulard depuis hier.
Oh,
je vais tout vous dire en 10 secondes. Vous savez, tous les 3 mois, il y a les audiences radio. Et hier, donc, on en a parlé ici même dans les Grandes Gueules, c'était la publication des audiences radio. Et elles sont bonnes pour RMC et pour les Grandes Gueules en particulier. Nous avons gagné des auditeurs.
Merci.
Donc merci à tous ceux qui nous rejoignent. Ils sont 26 000. Hein, nous avons 26 000 nouveaux auditeurs dans les Grandes Gueules. Bienvenue à vous.
Et ben merci aux auditeurs qui nous suivent.
Et puis, en plus, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. De plus en plus longtemps. Voilà, c'est ce qu'on appelle la durée d'écoute et qui progresse. C'est-à-dire que ce qu'on raconte, bah, vous aimez bien et vous restez longtemps. Et alors, après, il y a les audiences quart d'heure par quart d'heure. Hein. C'est comme ça, les audiences radio.
Et le quart d'heure d'Anaïs, il cartonne.
Et donc, on a 3 heures d'émission. Donc, on décortique tous les quarts d'heure, etc. Alors, il faut savoir que tous les quarts d'heure sont au vert. Donc, ça, c'est bien. Mais il y a un quart d'heure qui a beaucoup progressé. C'est celui de Anaïs.
C'est beaux yeux. Voilà.
11, bravo, l'émission, bravo. C'est lorsque Radio. Anaïs Sens arrive en pyjama et pour faire son
zèf.
C'est ce que j'avais demandé, c'est radio, donc c'est même pas ton bravo. Apparence, c'est vraiment ce que
c'est
tu
radio,
dis.
C'est radio,
c'est sa douce voix.
On est GG.
Donc là, on a un pic.
Gérald Darmanin, vivement empoigné hier lors de sa visite en Guadeloupe. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Antoine?
On s'en fout pas.
Zora, on s'en fout pas. Frédéric?
Non, on s'en fout pas.
Le ministre de l'Intérieur se trouvait dans les locaux de la chaîne Guadeloupe Première pour une interview quand un homme d'une vingtaine d'années s'est approché, il a demandé à lui parler. Le ministre lui tend la main et c'est alors que l'homme l'a empoigné vivement par le bras et par l'épaule avant d'être maîtrisé par la sécurité du ministre. Il a été hospitalisé, cet homme, aux urgences psychiatriques. Gérald Darmanin n'a pas été blessé. Pourquoi on s'en fout pas, Antoine ?
Moi, j'ai longtemps fait de la politique. J'ai été collaborateur d'élus, candidat moi-même à certaines élections. Je pense qu'on a un grave problème dans notre société quand les élus, nos représentants, sont attaqués. C'est-à-dire que j'ai rien
Emmanuel
en commun
Macron
avec...
Emmanuel Macron a pris une gifle.
Voilà, exactement. J'ai rien en commun avec Darmanin. J'ai rien en commun avec Macron, mais je les soutiens pleinement à chaque fois qu'ils sont attaqués pour ce qu'ils représentent. Et on en parlait juste avant, sursaut d'autorité. Si on peut attaquer les élus sans conséquences, etc., l'autorité est morte. Et donc tout est lié. Il faut que quand on attaque un élu, la sanction soit extrêmement ferme.
On n'a pas les images de ce qui s'est passé, mais c'est vrai que c'est étonnant parce qu'a priori, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, est quelqu'un de très protégé. Alors il y avait peut-être un bain de foule.
Nous, on est à l'intérieur apparemment des locaux de la chaîne.
C'est qui est bizarre,
ouais, en plus. Donc, à mon avis, ça veut dire sécurité, ils vont devoir quand même se poser des questions.
Moi, je souscris à ce que vient de dire Antoine, mais j'ajouterais que là, il s'agirait, d'après ce qu'on dit, d'un cas psychiatrique. Il n'empêche que.
Oui, mais bon.
Il n'empêche que c'est trop facile parce que c'est récurrent. Et pour preuve, il y a de plus en plus d'élus, de plus en plus de gens qui ne veulent plus être élus, voire maires. Tu disais tout à l'heure un recul des vocations. Élu, ça en est une. Mais ce que je me pose comme question, c'est la protection du ministre de l'Intérieur, qui ça aurait pu être beaucoup plus grave.
Ben oui.
Puisque s'il a pu l'approcher.
Président aussi.
Mais là, ça aurait pu être plus grave.
Mais oui. Macron met des gilets pare-balles, hein, paraît-il, de temps en temps. Là.
Ça, c'est une rumeur.
Ça a été un petit.
Il faut vérifier s'il y a un torse un peu plus.
Oui, parce qu'il a fait ensuite Instagram et il va ensuite là pour.
En même temps, le président fait de la boxe.
Il fait de la boxe, donc il pourrait se défendre.
Comme Frédéric Farah.
Voilà, exactement. Non mais c'est étrange parce que quand on écoute la description de l'agression, on a l'impression que c'est étrange, ça a lieu dans des locaux, il y a quelqu'un qui arrive comme ça spontanément, on ne sait pas qui c'est, et qui peut se diriger très naturellement vers le ministre de l'Intérieur. C'est très bizarre de pouvoir entrer dans...
Oui, enfin c'est heureusement que ce n'était pas très grave. Quoi.
Mais oui, et moi je me dis c'est très étrange qu'il y ait autant de facilité. Et donc effectivement, pour moi j'estime, même si j'ai aucune sympathie pour la Macronie, mais tout élu quel qu'il soit doit être protégé.
Les GG. Francky Vincent qui atomise Ayana Kamoura. Est-ce qu'on s'en fout ou pas? Antoine a un grand sourire.
Pas.
Zora?
Non, je m'en fous pas.
Frédéric?
On s'en fout pas, c'est drôle en fait.
Invité chez Jordan Deluxe sur C8.
Alors, Jordan Deluxe.
C'est l'idole d'Olivier.
Jordan Deluxe, un mot quand même. J'adore ce type. Non mais c'est vrai, je ne sais pas si vous connaissez Jordan Deluxe. Il est habillé, il a une espèce de costard avec un nœud pape et tout ça. C'est un personnage. Et alors il fait des interviews sur C8, c'est ça?
Ouais.
Et c'est des personnalités artistiques. Il arrive toujours à sortir quelque chose sur l'argent.
Il a un style à lui. Hein.
Il a vraiment un style à lui. et donc il fait du buzz à chaque fois à ses interviews. Bravo à lui parce qu'il y a tellement d'interviews partout et il a réussi à trouver son créneau.
Donc Francky Vincent était l'invité de Jordan Deluxe. Écoutez ce que pense le chanteur de Celle qui pourrait se produire sur la scène de la cérémonie d'ouverture des JO.
Au Canada, et que c'est Céline Dion qui va chanter, non? Aux États-Unis, c'est Beyoncé.
Ouais.
Et en France, c'est Aya Nakamura. C'est une grosse blague. Les chanteurs sont comme les voitures, il y a des Ferrari, il y a des Clio, il y a Twingo, voilà.
C'est
quoi.
C'est qui Aya Nakamura? C'est quoi?
C'est une Twingo, hein.
Ayana Kamoura, c'est une Twingo. Antoine.
Alors,
c'est ta passion. Hein. Le sujet Ayana Kamoura, c'est
souvenez-vous, ici même, j'avais dit que j'étais horrifié que Ayana Kamoura puisse représenter la France. On m'avait dit, mais c'est parce que tu es raciste, c'est parce que t'es blanc, qu'elle est noire, etc.
On t'avait dit que c'était une
merci.
Culture, le rap.
Oui. Alors, c'est un autre sujet, mais je maintiens ça aussi. Merci à Francky Vincent pour son honnêteté. Il n'est pas dans le politiquement correct, il n'est pas dans la lecture raciale,
etc. Qu'il n'est pas dans le politiquement correct.
Et il dit, mais attendez, c'est absolument nul, pourquoi on fait ça? Merci, c'est une irruption de la réalité et du bon sens.
Zora?
Non, mais moi, je l'ai défendue parce qu'elle a été victime d'attaques racistes. Après, attendez, si, pas par toi, mais sur les réseaux.
Francky Vincent, il est raciste ?
Non, pas lui. Ah, mais sur les réseaux, il y a eu.
C'est juste qu'elle chante mal.
Antoine.
Sur les réseaux, il y a eu des réelles attaques racistes vraiment très ciblées et très explicites.
Ah oui,
je
ne
dis pas que toi. Oui,
oui, oui.
Oui, oui. Il y en a eu. Il y a eu un déchaînement raciste. Oh, mais ce n'est pas parce que toi, tu ne l'as pas été que d'autres ne l'ont pas été.
Non, c'est vrai que.
On te donnera tous les screens.
Vous tombez dans le piège. Vous tombez dans le piège.
Attends, mais Antoine, on peut dire.
Mais oui,
c'est dégueulasse. C'est dégueulasse d'être raciste avec Aya.
Voilà, et pourtant, j'aime pas.
Tout en n'aimant pas ce qu'elle chante.
Voilà, voilà, point.
Il y a eu une banderole qui disait on n'est pas au marché de Bamako. Et certains ont dit que c'était raciste.
Oui, si, c'est raciste.
C'est raciste.
Mais en fait.
Bah si,
il y a pire que ça, Antoine.
Tout ne peut
c'est
pas
raciste,
être raciste.
Bah, c'est comme si moi,
mais
tu me disais, on n'est pas au marché d'Alger, quoi.
Bah oui, voilà,
c'est raciste.
C'est raciste.
Comme si, non, mais... c'est comme si tu me disais, et où on n'est pas au carnaval de Dunkerque, là, Antoine.
Non, mais là,
c'est pas la même chose.
Et vous savez quoi ? Je vais vous raconter une blague. C'est un jour, une réunion politique. Il y a Jean-Christophe Cambadélis, pour ne pas le nommer. Il y a plein de jeunes Français issus de l'immigration qui se plaignent de discrimination à l'intérieur du PS. Et t'as Jean-Christophe Cambadélis qui dit « Mais regardez, moi, je suis né en Grèce, je suis d'origine grecque, je suis bien élu. » Non, mais tout le monde le regarde. C'est un peu comme toi, quoi. C'est-à-dire que toi, tu parles d'une discrimination dont tu n'es pas victime de discrimination parce que tu habites Dunkerque. Arrête de me raconter des salades.
Ayana Kamoura,
non, mais je rêve. Non, mais bien sûr.
Est-ce que dans notre pays, on lui a donné la nationalité?
Mais pourquoi tu l'as réduit à Bamako? Tu dis que c'est pas.
Je te dis qu'elle se victimise.
Non, mais
elle a fait un tweet en disant
la victimisation, c'est eux. Ce qu'ils attaquent. Ils attaquent sur le registre des origines. Après, ils te disent non, mais c'est parce qu'elle est nulle en chanson. Et après, quand tu les chopes en train d'attaquer sur le racisme, ils disent mais non, c'est parce qu'elle est nulle en chanson. Excuse-moi, elle a été victime de racisme. C'est clair,
après, on
net
a le droit de
et
pas
explicite.
Aimer Ayana Kamoura.
Exactement.
Bien sûr.
Et voilà. Ça veut pas dire
c'est
que.
Les couleurs,
donc, moi, je suis pour qu'on tape sur des artistes parce qu'on n'aime pas, mais pas sur leurs origines.
Je sais que Francky Vincent. Frédéric Farah adore, regarde.
Les fans.
Tu veux mon zizi?
Voilà.
Ben oui, c'est une des chansons de Francky Vincent.
C'est une des chansons,
tu
effectivement. Alors, on ne sait pas quand il chante ça, si c'est une
dans
Twingo.
Dans la voix d'Olivier Truchot.
On ne sait pas si c'est une Twingo ou une Ferrari quand il chante ça.
Un jour, j'avais énuméré toutes les chansons, tous les titres de chansons de Francky Vincent, et notamment Tu veux mon zizi.
Parce qu'il était invité sur BFM.
C'est tellement absurde, je trouve ça drôle. Je ne sais pas si vous voulez être drôle, mais moi, je trouve ça marrant. C'est quand même la comparaison d'une Twingo, quoi. C'est-à-dire vraiment, c'est. Vous trouvez.
Entre Bamako et la Twingo, je vais dire, il faut arrêter.
C'est du racisme automobile.
Non,
Antoine, je veux dire, c'est du mépris. Francky Vincent, à la cérémonie d'ouverture, il aurait plus sa place.
Je le trouve déjà plus français dans son attitude, un peu provocateur, etc.
J'aime
beaucoup.
Allez, merci Anaïs Sens. Dans un instant,
il y a un pic là.
On va revenir sur l'annulation, la double annulation des conférences de Jean-Luc Mélenchon à l'Université de Lille et puis ensuite dans une salle près de Lille.
C'est du racisme.
Deux fois, Jean-Luc Mélenchon a été interdit. La liberté d'expression est-elle en danger? On en débat dans les GG. À tout de suite sur RMC Story.
RMC, jusqu'à midi,
les grandes gueules.